Actu SF, les podcasts.
Bienvenue dans cette table ronde des Utopiales 2018. Je vois que vous êtes particulièrement nombreux dans la salle Hyperion ce soir. Je m'en réjouis d'avance. Bravo à vous si vous étiez déjà là tout à l'heure pour assister à d'autres conférences. Dans tous les autres cas, installez-vous confortablement. J'espère qu'il n'y a pas d'oreilles chastes dans cette salle. Car le sujet de la présente table ronde n'est autre, c'est écrit en gros là, que demain, l'orgasme. Alors pour parler d'orgasme aujourd'hui avec moi, juste à côté de moi, j'ai Fabien Vellman.
Bonsoir.
Voilà, Fabien Vellman qui est auteur de BD depuis une vingtaine d'années maintenant, qui a fait ses études à Nantes comme moi, mais contrairement à moi, il est resté à Nantes après. Et si vous étiez tout à l'heure ici dans cette même salle à 16h, avec Gwen de Bonneval, ils ont parlé d'érotisme et notamment de leur œuvre commune qui est parue tout récemment, donc Polaris et la nuit, ou la nuit de Circé, je vais y arriver. À côté de Fabien Vellman, nous avons Judith Nicogossian, qui est anthropobiologiste, anthropologue de la santé, philosophe, enfin, en gros, quelqu'un qui sait tout faire, on va dire. Quelqu'un qui est spécialiste du corps hybride et qui met ses travaux à l'épreuve de la narration via des ethnofictions, dont il y en a au moins une ou deux qui sont disponibles en ligne assez facilement. À côté de Judith Nicogossian, nous avons Jana Debats, romancière et nouvelliste, pour les adultes et pour la jeunesse, mais évidemment, on ne va pas parler ici de son œuvre jeunesse a priori. Elle est également directrice artistique des Utopiales, et elle a, entre autres, pas mal rapproché les corps dans la trilogie Testament parue chez Actu SF, mais pas que.
Bonsoir.
Tu l'as bossé, ta façon de le faire, non?
Ah oui,
bonsoir.
Oui, c'est déjà particulièrement orgasmique.
On sent la professionnelle quand même.
En fait, j'ai
qui évoque
tout pompé, si j'ose dire, sur Philippe. Vous savez, Philippe, ils avaient cette voix comme ça. La jurée du cherche midi est totalement bloquée à la circulation. Nous attendons.
Alors, quand j'ai annoncé à mes camarades que j'allais modérer une table ronde qui s'intitulait « Demain, l'orgasme », on m'a dit « Demain, mais pourquoi procrastiner ?» Donc, avant d'attaquer « Demain, l'orgasme », on va peut-être rester sur « Aujourd'hui » et puis s'interroger. Et là, je vais notamment me tourner vers Judith Nicogossian. L'orgasme, c'est quoi? Comment ça marche?
Alors, l'orgasme, de façon préliminaire...
C'est le mot.
On n'en connaît pas grand-chose finalement, sauf que ça peut être mécanique et ou psychologique, que chez les hommes, l'orgasme n'est pas forcément lié à l'éjaculation, que l'orgasme des femmes dure plus longtemps, 20 secondes pour 10 secondes chez les hommes, qu'il y aurait 20% de femmes à peu près qui ne connaîtraient pas l'orgasme en un an, donc... C'est beaucoup quand même.
Et c'est dommage.
En lien, et c'est un peu regrettable. En lien aux hormones, c'est un mélange d'ovocine, de testostérone, de plein d'hormones qui comme ça joueraient sur le cerveau et qui déclencheraient ce feu de l'action là. Mais on n'en sait pas plus non plus. Voilà. Après, ce qu'il est peut-être possible de dire sur l'orgasme, c'est que la façon dont il est traité, en tout cas en société, diffère en fonction des hommes ou des femmes. Et souvent, les hommes et les femmes s'entendent très très mal sur le bien fondé de l'orgasme. Quelqu'un a joui avant, aurait eu un coït après, les deux se rencontrent mal, donc il y a une source d'incompréhension peut-être.
Quoi qu'il en soit, entre deux partenaires, oui... Mais l'orgasme est-il nécessaire, finalement? Enfin, ça, c'est une des questions auxquelles je vais vous inviter.
Alors, là, j'ai peut-être une petite réponse là-dessus. De toute façon, les hormones dont vient de parler Judith fonctionnent pendant tout l'acte sexuel, que ce soit chez les hommes, autant que chez les femmes. Le fait est que l'acmé de libération de ces hormones n'est pas l'unique objet de l'acte sexuel. On va passer de l'autre côté le fait de la reproduction. Non, ici, il faut être bien clair, on s'en fout. Hein?
Oui, parce qu'à une époque, on a cru que l'orgasme féminin était un facteur qui améliorait la fertilité. Favorisant, on s'est rendu
ça
compte
se
que
saurait, ça quand même. La planète serait dépeuplée depuis.
C'était supposé.
Alors figure-toi, non.
Pardon.
Bah, figure-toi, non.
Parce que il y a un déséquilibre notoire entre les hommes et les femmes. Donc,
voilà. Donc, à une époque, on pensait améliorer la fertilité d'une femme en l'aidant à atteindre l'orgasme. Il y a un certain nombre de documents d'anciens médecins royaux, notamment, qui conseillaient de bien s'occuper de la vulve royale avant d'y introduire le
pendant,
pénis royal. Voilà, oui,
c'était mieux pendant parce que, effectivement, ça facilitait, selon les médecins qui, à l'époque, avaient peu de, on va dire, d'introïdes sur la question. Pour eux, ça facilitait la course des spermatozoïdes. Donc, du coup, il fallait que l'orgasme féminin ait lieu en même temps que l'orgasme masculin.
C'était un peu comme une fanfare, quoi.
Voilà, c'est ça. Bienvenue, les gars. Enjoy. Take your place.
La médecine et le rapport médical sur l'orgasme a beaucoup évolué au cours du temps, au cours des siècles, au cours de l'histoire. Encore très très récemment, on a assimilé l'utérus féminin à l'hystérie et été soigné en cabinet thérapeutique sur préconisation médicale par l'introduction de dildos ou de sex toys. Et c'est vrai que ça a beaucoup évolué ce regard-là sur l'orgasme. Aujourd'hui, les connaissances thérapeutiques de neurophysiologie sont claires. C'est un ensemble d'hormones, comme ça, un petit peu complexe, qui vient et qui évoque ce désir-là, avec derrière l'orgasme, la dissociation entre éjaculation et orgasme pour les hommes, pour les femmes, moins de fatigue après post-coït que pour les hommes. Et puis aussi, on penserait qu'il y a des effets bénéfiques thérapeutiques à avoir des orgasmes réguliers. 14 orgasmes par mois pour une femme permettrait de réduire les chances de contracter un cancer du sein.
C'est précis quand même.
Mesdames, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Ce sont des données très précises.
Mais pas 15, parce que ça commence à devenir un truc de salope.
Et pour les hommes, c'est pas par mois, la mesure elle est hebdomadaire. Pour les hommes, la mesure a été calculée de façon hebdomadaire. Et c'est 2 organes par semaine permettrait de réduire les risques de mortalité. Alors là, c'est un petit peu... Ça reste très généraliste, pourquoi
j'aime
pas.
Bien, voilà. J'aime bien la façon dont
alors, est-ce que c'est parce que l'homme frustré a plus de comportements à risque ?
Ça, c'est...
Donc ça pose même les études médicales, qui sont des études scientifiques, posent énormément de questions, énormément de problématiques, soulèvent énormément encore de problématiques sur ce sujet qui fut tabou très longtemps ou réduit à une partie pour un tout organique.
Alors, pour ajouter un truc à ce que vient de dire Judith, il y a quand même un souci, c'est que ça, c'était la version cool de la médecine par rapport à l'utérus.
Et bah, cool, les dildos électriques et compagnie, c'était pas...
Non, mais attends, il y a mieux. On a fait vachement mieux. Il y a eu aussi l'autre école qui consistait à penser que, finalement, cet organe érectile-là rendait tout le monde très nerveux, donc on allait l'enlever. Et ça, c'est le 19e siècle et le début du 20e. Hein. Donc, comment ça s'appelle cette horreur ? J'ai oublié là.
Clitoris.
Non, pas le clitoris. Le clitoris, c'est vachement bien. L'excision. Donc, l'excision contre laquelle on se bat ces dernières années, beaucoup à titre général, ça a été bien pratiqué par la médecine occidentale à un certain moment. Hein. Parce que tant qu'à faire, là, on réglait le problème. D'un autre côté, au début du XXe siècle, la médecine a toujours des courants contradictoires. Les veuves, on leur conseillait volontiers d'avoir leur petit ami, c'est-à-dire le dildo dont on vient de parler, dans leur sac à main, histoire de se calmer si par hasard elles avaient des vapeurs.
Et ça, c'est la partie, on évoquait le fait qu'il y ait des changements scientifiques sur la vision de voir l'orgasme. Parce que je précise que cette partie-là m'est complètement inconnue, la partie scientifique. Ça me donne vraiment l'impression d'être un concerto pour violoncelliste et d'un coup je fais genre je ne sais pas jouer du violoncelle, qu'est-ce que je fous sur ce putain de plateau à parler de l'orgasme de demain.
Tu joues de la trompette, ce qui psychologiquement est d'une façon freudienne, marche assez bien,
ouais,
comme symbole.
Mais là où je peux intervenir par rapport à mon domaine de petite compétence qui était de, alors je précise donc, d'avoir fait des entretiens avec des gens à propos de la sexualité dans un bouquin qui s'appelle L'herbier sauvage. Ce que j'ai vu énormément apparaître, c'est le fait qu'il y ait une notion très variable dans le temps et selon la culture et selon les femmes et les hommes, leur perception du désir. Et que effectivement, cette perception du désir féminin ou masculin comme étant essentiellement différent a énormément changé. Ça, on le voit historiquement, mais on le voit dans les entretiens que je fais. À savoir que selon la manière dont on se perçoit et les époques, on va dire que la femme a un désir dévorant et extrêmement dangereux. À une certaine époque, ça a été le cas. Puis au contraire, une sorte d'absence de désir. Où quelqu'un, on va commencer à dire, bah oui, les hommes, c'est bien connu, ont besoin de tirer leur coup X fois par semaine parce que c'est la testostérone, mes amis. Et puis les femmes, non, elles n'auraient pas ça. Et c'est, par exemple, dans les clubs libertins, c'est quelque chose qu'on a vu apparaître en cours de route. C'est, tiens, en fait, le fameux adage que j'ai entendu assez régulièrement, c'est maintenant, un couple vient dans un club échangiste parce que le mec, c'est son fantasme. Et en cours de route, il commence à flipper parce que sa femme veut revenir en club et qu'il ne sait pas quoi faire de ce désir-là, de cette force-là. Donc là, je ne parle pas de l'orgasme, qui est encore autre chose, mais du rapport à ce que serait le désir et cette envie d'acmé. Et qui est énormément changeant dans le temps et selon les cultures. Ce qui m'amène à penser que pour faire simple, il vaut peut-être mieux envisager que peut-être c'est le même désir chez les deux et que culturellement, il n'est pas jugé de la même manière selon les époques. Et que, pour le faire très schématiquement, encore maintenant, c'est ce qui m'a surpris, parce que je pensais qu'on était sortis de là, mais beaucoup de gens, y compris des jeunes, y compris des femmes, me disent « Non, mais tu sais bien que moi, je suis une femme, donc je suis plutôt sentimentale et c'est quand même, il faut que je sois amoureuse pour jouir. » Ce qui peut être le cas. Je ne remets pas en question qu'on me le dise, mais qu'on me dise que c'est... l'essence féminine qui fait qu'il faut être amoureuse pour jouir, qu'elle aille en club, elle verra que non. Oh non, bah, ou alors c'est des nanas très très polyamoureuses, quoi. Donc ça, cette partie, elle m'intéresse. Et en tout cas, celle-là, je peux avoir quelque chose d'un peu plus pertinent à dire.
Alors, l'hormone de l'ocytocine, elle serait responsable de l'attachement affectif comme ça, d'envie de caresse et de la tendresse qu'on pourrait dispenser à l'autre. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'orgasme, normalement, c'est mécanique. Un orgasme, c'est mécanique. C'est un frottement mécanique de certaines parties du corps érogène qui soulève cette érotique et qui déclenche des réactions physiologiques.
Oui, et ça fonctionne.
Le fait est que c'est pas que organique et pas que biologique.
Pourtant, c'est pas que mécanique non plus, parce que le rôle du mental et de la psychologie est très important, et le rôle du fantasme, le rôle de la fantaisie, du fantasme, dans l'imaginaire. Et ce fantasme-là fait qu'on a peur un petit peu de l'autre, parce que l'autre est inquiétant dans le sens où on connaît pas ses fantasmes réellement, et on a peur de se retrouver embarqué sur des terrains qui nous deviennent inconnus, peut-être.
Ça me fait penser à un merveilleux épisode de Black Mirror. Ça commence bien.
Ça a commencé à me faire flipper. Alors,
on était là aussi pour parler de l'orgasme dans la culture.
Où il y a un couple qui, pour arriver à l'orgasme, se repasse leurs anciennes... Alors, mentalement, sans prévenir le partenaire, leurs anciennes parties de cul, voire une partie de cul avec quelqu'un d'autre, pour parvenir à l'orgasme ensemble. Alors, les deux partenaires ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe dans la tête de l'autre. C'est un grand moment de glauquitude, façon Black Mirror, mais c'est pas totalement délirant, en fait.
Non, c'est très fréquent dans l'imaginaire sexuel de plein de gens.
Voilà.
Ça reste très tabou. On évoque dans Polaris le fait que justement, donc Polaris qui est une histoire criminelle sur fond de cercles mystérieux, de libertinage, où des gens inventent des jeux sexuels pour renouveler l'art érotique. Il y a un jeu qui s'appelle l'érosismogramme qui permet que chacun écrive ce qui lui a passé par la tête avant un acte sexuel, pendant tant qu'il peut tenir le stylo, et puis après. Et en fait, on montre pendant le récit, en tout cas c'est une hypothèse qu'on fait, que l'obscénité majeure serait d'être dans la tête de l'autre et de savoir à quoi il pense. Et c'est un tabou qui est très très fort dans les récits qui m'ont été faits de l'herbier sauvage, de gens qui disent un truc que j'ose pas trop dire, c'est que je peux penser à quelqu'un d'autre pendant l'acte sexuel. Moi, je pense que c'est assez fréquent.
Oui, tout à fait.
Ce qui devient effectivement embêtant, c'est si pour l'autre, ça serait une blessure absolue de le savoir et qu'il l'apprend, ce qui est le cas dans Polaris.
Alors, il y a dans la philosophie,
prénom,
excuse-moi Judith, oui, dans la philosophie indienne, il y a deux façons de baiser. Il y a la façon de baiser humaine, celle qu'on doit atteindre, et celle qui est en même temps que l'autre, avec l'autre, quel que soit ce qu'on a dans la tête. Et il y a la façon « mauvaise », entre guillemets, le mal, c'est d'utiliser l'autre comme un objet pour réaliser dans sa tête ses propres fantasmes. Voilà, c'est ce que disent les Indiens. Les Indiens d'Inde. Alors maintenant, je suppose que, comme c'est des gens sages, ils savent que la vérité est entre les deux. Voilà.
Et par ailleurs... Non, non, j'étais en train de relire mes
jolie
notes.
Jolie transition.
La barrière est très, très courte entre... Oui, oui. La barrière est très, très, est très opaque, finalement, un petit peu floutée, entre le sexe, la réalisation sexuelle mécanique, on va dire, le fantasme et l'amour. Et c'est vrai que, comme l'a dit Jeanne en début de table ronde, nous, on ne parle pas d'amour. L'orgasme n'est pas une question amoureuse, étant donné que l'orgasme est utilisé aussi sur des aspects purement mécaniques.
On peut être conditionné socialement pour ne jouir qu'avec des partenaires dont on est amoureux, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que, typiquement, un jour ou l'autre, vous tomberez sur un partenaire ou un objet qui fera que, amoureux ou pas amoureux, ça marchera.
C'est justement ce que j'essayais de dire au moment où tout le monde s'est mis à se marrer. Un beau jour, alors là, c'était pas une spécialiste de l'orgasme, en l'occurrence, c'était une spécialiste du système nerveux. S'est vu poser une question tout à fait intéressante. C'était, dans la mesure où on peut provoquer certains réflexes chez un mort, notamment le réflexe dit de Lazare qui fait croiser les bras si on stimule la bonne région, est-ce que si on stimulait...
C'est quoi la région qu'on stimule pour...
Alors, pour le réflexe de Lazare, je ne sais pas, mais a priori, c'est plus ou moins maîtrisé chez les thanatopracteurs, et ça peut être pratique aussi. Donc, si on stimule la bonne région, donc typiquement au niveau de la racine du nerf sacral, est-ce qu'on pourrait provoquer de façon mécanique un orgasme chez un mort ?
Ah,
cette personne a répondu.
Ça, c'est Frankenstein au point culminant là.
Cette personne a répondu probablement oui, mais ça lui ferait une belle jambe.
Une troisième.
La pendaison arrive assez facilement à ça. Voilà. On le sait malheureusement, mais.
Alors, est-ce que le pendu aura nécessairement atteint l'orgasme ? Ça, on a du mal à lui demander en général.
C'est très étrange cette discussion quand même.
Mais oui, mais on est là pour ça.
On va faire pousser des mandragores.
Et justement, puisqu'on parle du pendu et de l'orgasme qui mène à la mort, on va pouvoir attaquer, je ne sais pas si vous avez lu le petit descriptif de cette table ronde, mais il y était fait mention de la machine excessive de Durand-Durand dans Barbarella, qui provoque un orgasme qui mène à la mort. Il se trouve que ce n'est pas le seul objet de ce type dans la science-fiction. Dans un registre tout à fait léger et en même temps pas dénué d'une certaine forme de pertinence, dans Captain Orgasmo, on a l'orgasmo rayon qui est utilisé comme une arme, finalement. Est-ce que ce n'est pas révélateur de quelque chose, d'une idée d'une certaine conception de l'orgasme, le fait que ces machines à provoquer des orgasmes soient souvent utilisées dans la pop culture comme des armes.
La pipe est une arme de destruction massive.
On dirait un titre de Elle avant l'été. Non, c'était Ciment du couple.
Alors, j'aimerais bien dire un truc sur la machine excessive de Durand-Durand, c'est que quand même, Barbarella la flingue, la machine. Parce que la description que Forrest fait de Barbarella, c'est une femme totalement à l'aise dans son corps, dans sa vie, dans sa sexualité. Par conséquent, la machine ne peut rien contre elle. Au contraire, elle jouit, et puis la machine, il y a un moment où elle fatigue, et là...
Elle fout le feu. Donc, à la machine.
Elle fout le feu à la machine.
La scène est assez extraordinaire.
Elle peut pas tenir le choc face à la vraie féminité.
Vous avez tous en tête la scène, en gros, qu'on peut trouver sur YouTube. Hein, c'est une sorte d'orgue. Imaginez Barbarella glisser entre les tuyaux quelque part. Et donc le docteur Durand-Durand joue de l'orgue avec une partition qui, soit en passant, ressemble à l'érosismogramme qui est dans Polaris. Je m'en suis rendu compte en revoyant l'extrait. Donc une partition à faire jouir, pas mal comme idée quand même. Et donc ce qui est intéressant dans la scène, c'est que ce pauvre docteur Durand-Durand, au début, il est très sûr de lui en disant « Ah, you're gonna die with pleasure », enfin, avec un accent sans doute un peu improbable comme ça. Et ça marche pas, et on sent qu'il est de plus en plus affolé. Et cette scène, elle est assez typique de la grande panique masculine, qui est de ne pas parvenir à faire jouir sa partenaire, donc dans le cas présent, de la tuer par orgasme. Et il faut vraiment regarder le visage de Durand-Durand pour comprendre la panique masculine. Il est d'abord « ha ha !» puis après « oh putain !» puis à la fin, il tape comme un sourd, et ça ne marche pas. Donc si, pour des nanas qui ne comprendraient pas l'état dans lequel on peut être des fois, regardez la scène, vous comprendrez la psyché masculine. Genre, je comprends pas, où est la clé de sol? Et il s'avère en plus qu'elle jouit quand même et qu'elle fait exploser la machine. Duran Duran, il est complètement à côté de la plaque. La scène est vraiment hyper drôle à voir. Allez la voir sur YouTube immédiatement après la conférence.
Le fait est que la dysorgasmie ou l'anorgasmie est un problème vraiment crucial chez des catégories de personnes qui ne jouissent pas. Et c'est pourquoi deux Américains ont décidé de monter la journée de l'orgasme, selon les années bissextiles ou non, le 22 et 23 décembre, pour décomplexer un petit peu ces problématiques-là et puis essayer de rendre le thème suffisamment important, car pour eux, qui dit orgasme dit bonheur, qui dit bonheur dit épanouissement, qui dit épanouissement dit plus de paix entre les êtres humains et les sociétés.
Donc, alors c'est peut-être vrai, mais du coup on transforme, on change une injonction contre une autre. C'est-à-dire que d'un côté vous avez la salope qui jouit, et de l'autre côté, la cruche qui ne jouit pas. Or, on peut très très bien ne pas jouir. C'est pas obligé. Eh, oh. On peut ne pas avoir envie de jouir. C'est autorisé aussi. Hein. On peut le dire. On peut ne pas avoir joui. Ça aussi, il faut le dire. Et pas avoir envie de jouir non plus. Ah non, là, je suis fatiguée. Il faudrait un tout petit peu que je me concentre. Merde. Mais on peut jouer quand même. Il y a des tas de façons de vivre sa sexualité, de vivre son orgasme ou son anorgasmie sans verser dans l'injonction l'une ou l'autre, je veux dire.
Ça, c'est très très présent dans les entretiens que j'ai pu faire et ça, en fait, ça, c'est venu combler des questionnements personnels. C'est qu'effectivement, il y a une crainte de double injonction de plein de gens. En fait, ce que je ressens très fortement, c'est que la plupart des gens qui viennent me voir pour parler de cul le font pas pour mon bouquin, dont ils se foutent un peu, mais pour un petit peu...
Ils ont raison quand même.
Oui, ils ont un peu raison. Mais après, s'ils le lisaient, ils verraient que c'est bon, c'est vraiment très bien, mais ils le lisent pas. Ils viennent parce qu'ils veulent parler de cul à quelqu'un qui va pas les juger, et qui est ni psy, ni prêtre. À une époque, c'était un prêtre, alors merci le retour que ça te donne. Et le psy, c'est quand même censé te guérir, donc quelque part, c'est qu'il y a un problème. Ce qu'apprécient les gens qui viennent me voir pour parler de cul, c'est que je leur dis dès le départ, il n'y a pas de jugement ni du côté d'une sexualité un peu folle, ni du côté d'une non-sexualité. Donc maintenant, parlons. Et une fois ça posé, je me rends compte, la grande crainte, c'est est-ce que je suis normal dans ma sexualité? Y compris des gens qui ont des sexualités un petit peu, un peu folles, mais même là-dedans, il y a une idée de norme ou pas. Mmh. Et je suis d'accord avec toi, une double injonction. C'est est-ce que je suis coincé du cul? Et j'ai pas envie de passer pour coincé du cul parce que je suis moderne, blabla. Est-ce que je suis obligé d'être dans cette injonction à la jouissance que les magazines avant l'été ont tendance à nous balancer? Du style, jouit trois fois sans effort, fait ceci, fait cela. Et les deux sont compréhensibles. Le fait qu'il y ait eu 68 qui soit passé et qu'on nous dise que c'est quand même pas mal de penser à son partenaire et sa partenaire, et c'est peut-être quand même pas mal qu'à une époque, on se soit peu préoccupé de l'orgasme féminin et que maintenant ça devienne important, c'est plutôt chouette. Sauf si ça devient un dogme qui consiste à dire maintenant tu dois jouir. Et si on n'y arrive pas, on se sent super mal. Et en plus, c'est un dogme que les deux subissent. Le docteur Duran Duran que j'évoquais, il se dit que c'est un bon coup. Sauf qu'il panique parce qu'il n'y arrive pas.
C'est un bon mot là.
Et du côté des nanas qui savent qu'il y a une attente masculine, parce que s'il n'y a pas orgasme de leur part, le type sera un peu en train de se dire merde, où est-ce que j'ai raté quelque chose, vont être amenés à simuler. Je ne dis pas que c'est génial qu'elle puisse le faire, mais le mec a plus de mal à le faire. Or, le mec, des fois aussi, voudrait simuler pour que ça s'arrête. Parce qu'il dit justement, façon
Duran
Duran...
Mais il y a des mecs qui simulent.
Oui, tout à fait. C'est possible, mais c'est plus rare. En fait, je me suis rendu compte que les mecs l'osent moins. Parce que c'est. Bah, y a l'idée d'érection qui est un peu une preuve visible ou pas visible du désir ou de l'absence de désir, qui est très compliqué à gérer. Là encore, je vous parlais de la panique masculine, c'est pas pour faire ma victime sur le plateau parce que je suis le seul mec, mais c'est que là où il y a une très grande crainte chez les hommes, mais qui est liée à une injonction double, je veux dire chez les deux personnes, la femme et l'homme, ça peut être vrai entre homosexuels bien entendu. C'est que par exemple, quand des nanas me disent « Mais les mecs, il faut que vous arrêtiez avec cette question d'érection, lâchez-vous un peu, on s'en fout, la sexualité n'est pas obligée d'être liée à la pénétration », c'est entendu, on est d'accord, si on est un petit peu dans un état d'esprit cool, ok. Mais si on interroge vraiment, vraiment, vraiment jusqu'au bout plein de nanas, elles vont dire « Oui, je reconnais quand même que s'ils ne bandent pas, ça me pose un peu question ». Alors, ce n'est pas plus méchant que ça. Mais déjà, voilà, le verre est dans le fruit. C'est qu'il y a un côté, donc le mec qui ne va pas bander va se dire « Ah, comment je vais... Oui, il est dans le fruit. On ne peut pas faire un débat avec Jeanne, en fait, c'est pas possible.
Arrête d'être lacanien.
Non, le verre est rectile dans le fruit. Je ne pas parler de ma
sortie
mère.
Sorti du
encore.
Contexte, non, non, tout mais, est sale.
Non, mais pour répondre à cette question-là, c'est qu'il y a aussi, on se retrouve encore dans l'autre injonction. C'est-à-dire qu'on nous apprend socialement qu'un mec, ça baiserait une chaise.
Pour peu qu'elle soit consentante, hein, pensons au consentement.
Ben non, justement, à une époque, on demandait même pas.
Oui, à une époque, mais...
Il se trouve que non, en fait. Les mecs, ils ont les mêmes fragilités que nous.
Mais oui.
Et ils ont les mêmes angoisses que nous. Et il y a des fois, la chaise leur plaît pas. Merde. Et donc, lorsque la nana se retrouve devant le mec qui bande pas, elle se dit, putain, je suis même pas une chaise.
Oui,
et donc... Du coup, voilà. Là, on se retrouve dans un cercle vicieux. Et on est coincé.
Il est extrêmement difficile de parler de l'orgasme parce que l'orgasme, comme on l'a souligné, c'est un ressenti subjectif. On est dans le corps vécu, le vécu corporel de l'action. C'est complètement subjectif. On serait 10 000 autour de cette table, on chacun parlerait de son propre orgasme, ce qu'on ne fait pas heureusement. Mais on aurait tous des points de vue différents. On aurait tous des façons de raconter les choses, des ressentis très différents sur la question. Et du coup, il y a toujours ce décalage-là entre l'imaginaire collectif de l'orgasme et le contexte normatif. Très très ancré en disant l'orgasme ça doit être ci, ça doit être ça pour les garçons, pour les filles, les filles de ce qu'elles attendent de leur partenaire, quel qu'il soit, homme ou femme, et réciproquement. Et c'est vrai que ça soulève beaucoup de malentendus.
Sans compter que l'éducation des frissons est très mal faite dans ce pays. Là, je cite Henri Michaud, parce que quand même, lorsque je suis prof, je peux vous en parler à ce niveau-là, lorsqu'on ouvre les manuels scolaires niveau 4e, puisque c'est la reproduction humaine est abordée à ce moment-là, vous noterez que je n'ai pas parlé de sexualité humaine, j'ai parlé de reproduction humaine. La plupart du temps, alors ce n'est pas toujours vrai, ça le devient de moins en moins, mais le fait est que lorsqu'on a une représentation du sexe masculin total, bizarrement, on a la représentation du sexe féminin interne, mais certainement pas le clitoris.
Oui, il est très rare dans les manuels. Il doit être dans un manuel,
ça
existe.
Ça commence à arriver.
Ça commence à arriver. Mais ce qui fait qu'on lâche dans la nature des filles et des garçons qui ignorent totalement, non seulement parfois l'existence même du clitoris, mais son emplacement. À la limite, ils sauraient que ça existe, ils le chercheraient. Hein, on peut envisager ce...
Est-ce qu'il y en a sur les chaises?
Ah, mais j'avais compris les chaises tout à l'heure.
Et tu es resté à cette table.
Alors, je sais qu'il y en a sur les genoux. Il suffit de l'imaginer.
Oui.
Rugbyman.
Voilà.
Ce qui est intéressant en parlant de la représentation du clitoris, c'est qu'on sait depuis quelques années, on voit maintenant cette image apparaître de plus en plus, la modélisation de ce qu'est le clitoris version iceberg, la partie cachée. Quoi. On s'aperçoit que c'est quelque chose d'assez grand, assez large, qui va recouvrir à peu près toute la zone sexuelle jusqu'à l'anus.
Entouré plutôt. Que
oui, entouré.
Entouré.
Voilà. Mais ce qui est intéressant là-dedans, qui dit quand même quelque chose de la vision qu'on a de la sexualité, c'est qu'on dit, ah, vous voyez, c'est aussi gros qu'un organe sexuel masculin, comme s'il fallait, enfin, comme size matters, quoi. C'est, bon, à la limite, tant pis. Si on doit en passer par là. Il s'avère que ce symbole-là, cette façon de représenter le clitoris comme une sorte d'orchidée, si je devais le dire très rapidement, elle parle à énormément de gens et elle permet de rappeler qu'on n'en voit qu'une toute petite partie immergée de l'iceberg et qu'en fait, c'est beaucoup plus vaste. Après, il s'avère que des entretiens m'ont montré, parce que je ne le savais pas, qu'on peut jouir du genou, de l'épaule, de... Enfin, en fait, il suffit qu'il y ait une connexion à un moment donné du corps avec les organes sexuels. C'est plus des femmes qui me l'ont raconté, mais je veux bien croire que des mecs puissent le vivre, qui font que ce n'est pas forcément lié à l'organe sexuel en tant que tel. Ce qui ouvre un peu le champ des possibles.
Là pour le coup, c'est un fonctionnement psychologique. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à ce dont tu parles, là, le clitoris déplacé psychologiquement, si vous voulez.
Comme de la télékinésie du cul.
Voilà, c'est ça. C'est merveilleux. C'est totalement envisageable. C'est prouvé que ça marche. Mais le fait est que c'est un travail qui se fait entre deux partenaires totalement consentants. C'est totalement impossible autrement.
Alors, ou une seule personne,
d'ailleurs.
Alors, oui.
Ou une seule personne, parce que la masturbation est un pan entier de cette discussion.
Oui, mais là, c'est plus complexe, quand même, je pense.
Il y a un cas clinique, quand même, qui a été rapporté d'une femme qui est allée consulter parce qu'elle avait des orgasmes quand elle se brossait les dents.
Ah ouais.
Quel dentifrice, au juste.
On pourrait légitimement se dire que cette femme avait une hygiène buccale excellente. Néanmoins, elle était allée consulter parce que ça lui posait vraiment problème et qu'elle commençait à avoir peur de sa brosse à dents. Donc c'était pas un conditionnement de sa part, elle, c'était pas elle-même qui avait appris à jouir en se brossant les dents.
Non, mais c'est gênant si elle n'arrivait pas jusqu'au bout à se laver les dents, effectivement.
Elle a peut-être mal interprété les pages de La Redoute, parce qu'à une époque, dans les vieux catalogues, il y avait le vibro de la joue, là. Le truc pour se masser la joue. Et gamin, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Maman, c'est quoi ce truc pour se masser la joue? Je n'ai appris que bien plus tard que c'était l'ancêtre des sextoys dans La Redoute et les Trois Suisses.
On se massait les pieds avec aussi.
Ah pardon, autant pour moi.
Les zones érogènes connues et d'autres moins connues, du coup, à découvrir. Après, ceci dit, le sexe masculin et le sexe féminin, c'est pareil, de façon anatomique. Le sexe féminin est inverse et à l'intérieur, tandis que le sexe féminin, le masculin, est à l'extérieur, d'où la facilité. D'où la facilité aussi chirurgicale, sur le plan chirurgical, de pratiquer des phalloplasties ou des vaginoplasties, parce que c'est finalement relativement simple. En posant la question d'une rééducation derrière par rapport justement à ces zones érogènes et son propre récit corporel, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas qu'une question de zone, c'est aussi une question de mental et de ce qu'on va y projeter dedans, de fantasmes. Donc il faut se réapproprier aussi des zones érogènes ou les développer. Je pense qu'il peut y avoir une éducation à ce sujet, peut-être.
Tout à fait, mais de toute façon, dès que tu commences à couper dans un corps pour replacer, etc., il y a toute une rééducation à faire à tous les niveaux et recréer les chemins nerveux. Ou la confiance, restaurer la confiance déjà, parce que la confiance, c'est la base de l'orgasme déjà. Si vous n'êtes pas persuadé que ça existe, d'ailleurs, si vous ne savez pas que ça existe, si vous n'avez pas confiance dans le fait que vous allez jouir, vous n'allez pas jouir.
D'où le fait que le cadavre, ça lui fait une belle jambe.
Absolument. Une troisième, comme...
Tout à fait. Alors, avec les évolutions récentes de la sexualité... Comment jouit-on aujourd'hui? Comment jouira-t-on demain? Comment est-ce qu'on se projette justement dans son propre corps? Qu'est-ce que la pop culture éventuellement peut nous apprendre à ce sujet? Ou qu'est-ce que vous, dans vos réflexions respectives, vous pouvez imaginer?
Déjà, pour revenir un petit peu sur ce qu'on a dit et être sûr d'être bien compris sur certains points, c'est quand on évoque par exemple... une certaine façon d'avoir un orgasme qui serait d'être amoureux, et en disant on peut déconstruire ça, c'est pas pour dire que c'est une mauvaise façon. Ce que j'aimerais croire être une façon d'envisager l'orgasme de demain, s'il y a quelque chose à en dire, qui n'est pas purement scientifique, c'est de pouvoir dire que chacun peut inventer sa manière et qu'elle peut être très classique. Il n'y a aucun souci à aimer être amoureux et jouir comme ça. Et en fait, simplement que ça ne soit pas la seule manière et qu'on ne se persuade pas que c'est essentialiste. Donc peut-être qu'une projection positive consistera à dire que peut-être on peut ouvrir le champ. Alors, être capable de se dire que cet orgasme est possible, existe, qu'il n'est pas indispensable à une sexualité épanouie, un peu comme un voyage, si on se disait que c'est comme un voyage dont je ne veux que la destination, c'est vraiment des clichés hein, ce que je dis là, mais c'est genre je veux aller à tel endroit et le voyage je m'en fous, ce que je veux c'est arriver à Rome, bah, on passe à côté de tout le reste. Bah, si on ne baisse que pour l'orgasme, c'est le risque. Si je prends le TGV pour aller à Rome et je passe à côté des petits chemins bucoliques, quelle jolie image!
Là, mais là, je note que tu évites les images gênantes.
Bah, cette fois-ci, il n'y a ni chèvre, mais ça, c'était ni pendu. Bon, j'ai fait un effort quand même. Donc, d'arriver à dire que oui, ça peut être quelque chose qui sera à la fois décorrélé d'un désir de que ça marche, que ça soit utilitariste, mais que ça puisse y arriver. Et je pense que moins on le cherche absolument et plus on profite du moment, plus il y a de chances qu'un orgasme arrive. Ça, c'est le côté un peu sociologique de la chose. Si je devais dire comment on l'a traité avec Gwen de Bonneval sur un bouquin qui était « Les derniers jours d'un immortel », on s'est projeté dans 400 ans et des poussières en se disant, est-ce que le sexe serait encore nécessaire en termes de plaisir si la reproduction n'y est plus liée et que la chimie permet d'avoir 10 fois plus en termes d'orgasme? Et on imaginait que ça devenait hyper désuet et que les types qui baisaient, c'était un peu des gens vachement old-fashioned, quoi.
Jeanne, après, il y a une responsabilité des auteurs de fiction. Parce que lorsqu'ils racontent... Le premier contact, en fait, que la plupart des jeunes ont avec l'orgasme, c'est l'orgasme fictionnel. Et je parle pas du porno, là, je parle de littérature, hein, on va être clair. Alors, le problème, c'est la métaphore. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec des histoires où la jeune fille ou le jeune homme se sent enflammé, brûlant. Alors, il est question de vagues de feu qui vous emportent. À ce moment-là, les arbres tournent. Bref. Personne ne sait ce qui se passe, en fait. Personne ne sait ce qu'on est censé ressentir à ce moment-là. Et il est tout à fait possible qu'une jeune personne, à son premier orgasme soit incapable de penser qu'il a eu un orgasme à ce moment-là. C'était pas mal, mais c'était bizarre, c'était peut-être pas ça. Et tout le problème de l'éducation qu'on se fait à soi-même sur sa sexualité, il est lié à ça. C'est reconnaître quelque part l'orgasme personnel par rapport à l'orgasme fictionnel qu'on a fantasmé pendant quelques années avant d'y arriver. C'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup quand j'ai écrit Humaine, trop humaine, où j'ai discuté beaucoup de sexe, moi aussi, mais pour éviter la métaphore, justement. Il me semblait que c'était un problème, que c'était un piège, qui permet à la fois de raconter, mais qui masque, et qui masque de façon essentialiste, effectivement. Parce que la plupart du temps, c'est la jeune fille qui est emportée par une vague de flammes, et c'est le mec qui est au soufflet, hein, désespérément.
Ben c'est du boulot. Hein.
Voilà, on revient à Duran Duran qui s'exprime sur sa clé de fa. Et du coup, la fiction, la plupart du temps dans l'histoire de la fiction, ça raconte aux filles qu'il faut attendre que les mecs le fassent. Non. Il faut prendre en main son propre orgasme et le chercher, si on a envie d'en avoir un. Et on n'est pas obligé d'en avoir un. On n'est pas obligé d'avoir envie d'avoir un orgasme. On n'est pas non plus obligé de baiser. Parce que ça ne suffit pas, contrairement à ce qui est beaucoup raconté dans certains magazines féminins, c'est pas ça qui fera de vous un être humain parfaitement épanoui, forcément. Si vous n'avez pas envie de baiser, vous ne baisez pas. En fait, la base de la baise, c'est le désir. Si vous n'écoutez pas votre désir, si vous dites, un, qu'il est illégitime quand il existe, ou deux, qu'il n'est pas légitime que vous n'en ayez pas, vous êtes dans la merde. Et ça, il faut arrêter.
Il y a beaucoup de lieux communs, en fait, que récupère l'industrie du sexe, l'industrie de la porn, et beaucoup de lieux communs qui sont véhiculés dommageablement. Par exemple, en vue aujourd'hui de Internet, donc 1969, ARPANET, petit réseau militaire du DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, qui aujourd'hui révolutionne notre monde entre le corps physique et le corps digital. Mais où il faut savoir qu'un tiers des connexions, c'est du cybersex. Un tiers des connexions Internet dans le monde.
Il y avait une plaisanterie d'auteurs de science-fiction qui était que la première chose que les extraterrestres verraient en arrivant, enfin, il y a deux choses qu'ils verraient. Des chats et du cul.
Pas mélangé, rassure-moi. Parce que... Je ne sais pas. Envahissons cette planète de niqueurs de chats.
Ils méritent la mort.
Mais c'est vrai que c'est malheureusement, je dis malheureusement parce qu'on pourrait se réjouir, il y a une forme de pornographie qui est tout à fait sympathique, qui peut l'être. Ce qui l'est moins, c'est les conditions des sex workers dans cette industrie, majoritairement. Soit en passant, il y a un très bon article d'un blog qui s'appelle Oh Joy Sex Toy. Bon, c'est en anglais, mais il y a un article de ce blog qui parle du fait de payer pour du porno. J'attire votre attention sur le fait d'aller lire. Moi, ça a un peu fait une révolution copernicienne parce qu'il s'avère que parce que c'est comme ça qu'on le trouve sur Internet, je m'étais dit en gros porno égale gratuit parce que Pornhub, YouPorn, c'est gratuit. Mais si on se met d'un point de vue d'auteur, moi en gros, j'ai pas forcément envie que tous mes albums soient gratuits parce que je gagne ma vie avec ça. Pourquoi un sex worker n'aurait pas le droit ? Qui plus est, un sex worker qui risque de travailler dans des conditions qui sont proprement infernal, et on sait malheureusement que dans cet endroit qu'on appelle la Vallée, en Californie, qui est l'endroit où il y a le plus de production pornographique, il y a un taux de suicide qui est énorme, ils sont à peu près tous drogués jusqu'à la moelle, parce qu'on leur fait faire des trucs de plus en plus extrêmes, parce que c'est la demande d'Internet qui le fait. Mais je précise juste qu'au milieu de cet océan de trucs pas très cool, il y a des gens qui font du porno payant, qui payent les sex workers grâce à cet argent, qui permettent qu'ils soient justement dans des modes de contraception, de protection d'eux-mêmes, etc., qui est hyper important. Donc j'attire votre attention sur un point tout bête, c'est que c'est pas la pornographie qui est le mal, c'est le fait que des gens travaillent gratuitement pour la pornographie et qui est une forme d'esclavage humain. Après, on peut tout à fait se pignoler sur un porno, c'est génial, mais pas si on se dit que derrière, il y a des gens qui en souffrent.
Ceci dit, c'est quand même une industrie. Après, moi, je me place ni d'un côté bien, ni d'un côté mal. Chacun fait ce qu'il veut, finalement. Par contre, c'est une réelle industrie qui véhicule des clichés, des lieux communs, des regards sur la sexualité, des regards sur l'orgasme, des regards sur la rencontre sexuelle, des regards sur les figures, les grandes figures de la rencontre sexuelle, et qui sont capables de provoquer chez des jeunes adolescents. Donc ça, c'est Serge Tisseron, un psychiatre français, qui disait que les jeunes adolescents, ils étaient très surpris de découvrir les poils pubiens, par exemple. Il y en a moins dans les pornos, etc., etc. Donc c'est un peu quand même des regards tronqués et biaisés sur la réalité de ce que c'est, cette réalité qui doit être subjective en fait. C'est à chacun de customiser son propre...
Sans compter ce qu'on appelle les scripts. C'est-à-dire que il y a une certaine scénarisation du cul dans les films porno. Vous avez le premier stade, le second stade, alors vaguement des préliminaires, ensuite elle suce, ensuite il la prend dans le vagin et après il la prend dans le cul. Ok, ça c'est grosso merdo.
Et j'oublie le grand final.
Mais oui, voilà. Alors, dans le meilleur des cas, à la fin, il y a un grand coup d'éjaculation faciale pour tout le monde. Et c'est merveilleux, avec quelques stades sympathiques, tels la bifle, sur laquelle je ne m'étalerai pas. C'est vrai qu'il y a un vrai dommage dans le sens où ça sclérose l'imaginaire sexuel des gens qui regardent ça.
Ah oui,
je ne dis pas que, pris séparément, tout ce dont je viens de parler soit mal. Rien n'est mal dans le cul du moment que c'est adulte, consensuel, etc. Le fait est que si on vous raconte que la démarche à avoir pour avoir un orgasme, c'est celle-là, vous allez la suivre et il n'y en aura pas d'autre. Et si vous ne jouissez pas comme ça, et puis en plus, vous risquez de ne pas faire jouir non plus votre partenaire, ce qui est un vrai aussi problème quand même, là, vous êtes coincé dans un script. Il faut sortir des scripts.
Ça, c'est une des thématiques très, très importantes de Polaris, c'est que justement, on voulait montrer que par ce biais d'une association secrète qui invente des règles, qu'il y a moyen... en inventant des règles temporaires, donc transgressives, mais très temporairement, de casser ces scripts. Parce que sinon, on va aller au plus loin du plus loin du plus loin de ce que pourrait permettre la sexualité, et puis finalement, on voit sur Internet que ça peut aller extrêmement loin. Je vais donner un exemple qui est facile d'accès, parce qu'il m'a été donné dans L'Herbier Sauvage, donc ce n'était pas dans Polaris, mais c'est une forme de règle. Une nana qui me dit, ben voilà, moi avec mon partenaire, je lui dis, la règle de ce soir, ce n'est pas de pénétration. Maintenant, allez, allons-y. Ben, ce qui s'est passé, c'est que le script était cassé. Le préliminaire est devenu le plat principal, si je caricature. Et ils ont réinventé une forme de sexualité. Et elle m'a dit que ça a été très bien. Et il n'y a pas eu besoin de la pénétration pour ça. Donc ce que j'appelle une règle, ça peut être simplement un interdit temporaire pour réinventer un peu, réinventer des trucs humains. Et la question de dire, par exemple, on ne serait pas obligé d'aller jusqu'à l'orgasme. On ne serait pas obligé de ceci. On pourrait s'imposer cela, mais sans que ce soit, bien sûr, toujours avec du consentement, etc. C'est juste mettre de l'inventivité et de l'imagination. Moi, ça, je prône ça, mais à 600%.
Une autre chose, c'est que les scripts, on ne les a pas forcément que dans le porno. On les a tout simplement au cinéma basique. Si vous regardez une scène de cul dans n'importe quel film qui en présente une, même un film vaguement familial, vous allez voir immédiatement... Il n'y a pas de préliminaire. Il n'y en a pas, ou très peu, ils s'embrassent. Allez. Et juste après, madame est sur monsieur ou monsieur est dans madame, et c'est fini. À un moment donné, ils jouissent ensemble. Pouf! Et ça, c'est le script vanille, on va dire, hein, simple. Sauf que c'est un script aussi. Il est présenté comme un script gentil, mais non, il n'est pas gentil, il est prescripteur. Il vous oblige à des trucs. Vous vous dites que une vraie scène d'amour, de cul, avec de l'amour dedans, c'est ça. Donc, sans préliminaire, avec où tout le monde jouit d'un coup, on ne sait pas pourquoi, parce que... Mais c'est merveilleux.
À trois, on y va. Ouais.
Yeah, tous ensemble.
De façon collective, ce soir, voilà. Nous allons finir par
on
un appel.
C'est un vote. Non.
Ah non, 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 j'ai faim, moi.
Après, moi, j'ai quand même, je voudrais juste, parce que le temps tourne, et c'est un sujet passionnant, quand même aussi aborder la question de la binarité. Donc là, pour le moment, on a discuté autour de l'homme, de la femme, et pas des autres genre. Je voudrais juste rappeler la biologiste Anne Fossot-Sterling qui, en fait, sur des différences anatomiques, hormonales, etc., disait qu'il n'y a pas que deux sexes. Ça, c'est une invention de la chrétienté, des religions pour amener à plus se reproduire parce qu'on n'a jamais jusqu'à
les religions.
Présent...
Les Indiens, par exemple, on reconnaît je ne sais pas combien.
Ouais,
certains Indiens des plaines américaines.
Bon, pour la plupart des religions... où on ne dissociait pas la sexualité de la reproduction. Et aujourd'hui, on la dissocie, mais le fait est qu'il n'y a pas que deux sexes. Il y a aussi tout ce qu'on appelle génériquement les intersexes, par exemple, et qui sont réparés par des contextes normatifs autres que l'industrie du porn, mais par la chirurgie, par exemple, pour être absolument réidentifié soit en homme, soit en femme, et qui subit cette mutilation sur le mode des mutilations,
subissent tellement qu'ils sont majoritairement suicidaires.
Et qui sont privés privés de leur moteur de jouissance singulier, particulier, qui est propre à chacun pour toujours, quoi. Donc c'est un peu terrible. Le fait est, c'est vrai qu'il faut rester libre dans tout ça et imaginer à sa guise sa propre façon de jouir aussi.
Après ce très joli mot, est-ce que quelqu'un dans la salle a une question ?
Ah oui.
Eh ben, on va commencer.
Bonjour. Je voulais savoir si vous faisiez une distinction entre jouissance et orgasme.
Alors, je ne sais pas si j'en fais une techniquement. Ce que je peux dire, c'est qu'on peut séparer effectivement ce qu'on a dit, plaisir sexuel pendant un acte sexuel, et finalement cette jouissance, ce type de jouissance-là n'est pas obligé d'avoir un climax, et ça ouvre énormément de perspectives de se permettre ça, de dire simplement c'est bien. Alors, malheureusement, je vais rapprocher ça d'un truc qui paraît très chiant, c'est la méditation en pleine conscience. C'est très proche de la méditation en pleine conscience, c'est de se dire à l'instant présent, voilà où je suis et je suis bien. On peut jouir de ce moment. Et donc, je ferai une petite distinction qui n'est peut-être pas technique ou grammaticale ou qu'importe. C'est de dire, je pense qu'un acte sexuel peut être une forme de jouissance sans orgasme à la fin. Soit en passant, là aussi, il y a une forme il y a beaucoup de normes autour de ça, y compris l'idée que l'éjaculation serait forcément liée au plaisir ultime. Il y a des éjaculations sans plaisir. Et inversement, il y a des hommes
plaisir
qui vont...
Plaisir sans éjaculation.
Exactement, le plaisir prostatique est un autre sujet qu'on aurait pu aborder ce soir. Mais petit coquinou, je vous en laisse pour demain, l'orgasme. Donc voilà pour ma réponse par rapport à cette distinction entre orgasme et jouissance. Je ne sais pas ce qui...
Pour moi, la jouissance, effectivement, c'est tout ce qui se passe pendant l'acte sexuel. L'orgasme, c'est peut-être le feu d'artifice à la fin auquel on n'est pas obligé, effectivement.
C'est une possibilité.
Et on n'a pas forcément envie, c'est ça ? Parce que c'est quelque chose qui est exigeant, finalement, physiquement. Il y a une idée de... On ne l'a pas surnommée la petite mort pour rien, et pas seulement pour les hommes. Je veux dire que ça prend de l'énergie aux femmes comme aux hommes, cet orgasme. La jouissance, comme disait très bien Fabien, par contre, c'est quelque chose de tout à fait zen, apaisant, agréable, et on peut s'en tenir à ce plat qui est déjà bien principal, je trouve.
Une autre question ?
Moi, j'avais deux questions. Je voulais commencer par m'interroger sur le fait qu'on n'ait pas encore parlé de la prostate, mais Fabien l'a fait juste avant moi, donc c'est parfait.
In extremis.
Ouais, c'était chaud. Hein.
Oui.
Je ne suis pas trop hétéronormé. Yes.
Et la deuxième, c'était pour le coup dans une perspective de science-fiction. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui est à explorer encore en science-fiction qu'on ne sait pas faire. C'est, qu'on ne sait pas faire physiquement, c'est la capacité à expérimenter le plaisir et éventuellement l'orgasme de l'autre. Le fait de se projeter dans la perception sensuelle et sensorielle de l'autre.
Ça, c'est un vieux fantasme de science-fiction. Voilà. On le retrouve dans énormément de romans, notamment dans Pion de John DeVinci, qui est également l'épouse de Vinci, le hard sciencieux. Et elle imagine que les télépathes partagent la jouissance de leur partenaire. On trouve ça dans Altered Carbon aussi, où l'une des clones de l'épouse d'un type secrète une hormone spéciale qui permet de ressentir non seulement ce que ressent le partenaire, mais de renvoyer ce qu'elle ressent au partenaire, ce qui fait qu'elle est totalement irrésistible à elle seule. Sauf qu'il y a un moment où je m'interroge toujours, c'est que comme le type n'est pas vraiment convaincu au moment où elle essaye de le séduire, comment ça se fait que la répulsion ne rentre pas dans la boucle ? Ça, c'était un problème que j'avais trouvé dans le
Sense8 aussi, non ? Évoque un peu cette idée d'orgasme.
Dans Sense8, alors là, c'est la partouche cosmique.
Ça a l'air bien quand même.
Ça a l'air vachement bien.
Si tu rajoutes les chaises là-dedans.
Voilà.
Il y a aussi le désir de compréhension de l'autre, je pense, qui joue là-dedans. C'est-à-dire que, pour le coup, quand on parle d'une barrière et de problème de compréhension entre individus, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui joue là-dedans dans le fait de comprendre ce que vit l'autre sensoriellement, c'est aussi peut-être un peu mieux comprendre comment il fonctionne et ce qu'il vit.
Et puis c'est vraiment vieux comme le monde, cette interrogation autour de Tirésias, qui aurait été capable, en ayant les deux sexes, de comprendre ce qu'était l'orgasme féminin et masculin.
Et c'est pour ça qu'on lui a crevé les deux yeux, je te rappelle.
Parce que maintenant, ça suffit les conneries. Bon, il laissait entendre que l'orgasme féminin était mieux, et bon, c'est un peu, on est dégoûté, quoi.
Et après, il devient aveugle. Voilà. Bizarre, hein, quand même.
Il y avait d'autres questions, je crois.
C'était par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, j'ai peut-être mal interprété, mais c'était pour savoir, du coup, après une phalloplastie, c'est pas possible d'avoir un orgasme, c'est ça ?
Ah mais non, pas du tout.
Simplement, il y a eu un témoignage d'une personne qui a subi une transformation chirurgicale de sexe et qui, son nom m'échappe, mais je pense que ça doit être facilement retrouvable, et qui du coup disait que derrière, il y a eu quand même une rééducation parce que les zones érogènes qui étaient projetées par de l'ordre du fantasme avaient été bousculées. Cet équilibre-là avait été modifié et du coup, il y avait tout un passage de réapprentissage de son propre corps dans les zones érogènes et pour retrouver une sexualité. Après, moi, j'en sais pas plus, mais de passage d'un sexe à l'autre par le biais de la chirurgie, c'est pas aussi simple non plus forcément que ça, même si la volonté est là de départ et est là très très ferme.
Pour faire un parallèle un peu audacieux, mais il y a des aveugles à qui on a donné une espèce de plaquette qui se pose sur la langue et qui permet de... Il y a une caméra qui capte une image et qui la retransmet en mode picot sur la langue qui est très sensible. Et en fait, ils se refont une représentation mentale visuelle par la langue de ce qu'ils pourraient voir avec la caméra. Et ça demande visiblement au cerveau quelques jours d'adaptation pour que les neurones s'adaptent, en fait. Et après, c'est comme s'ils voyaient directement, mais par la langue. C'est assez dingue, ce truc.
Après une intervention chirurgicale, quelle qu'elle soit, même très réussie, avec une prouesse technique très réussie, et tout qui se passe super bien, il y a un impératif d'adaptation, en fait, et neuroplasticité par rapport au mécanisme de neuroplasticité du cerveau, et d'adaptation au nouveau schéma corporel qui a été modifié.
Mais même quand tu accouches, si tu accouches, si tu es en position d'accoucher, ça va changer ton corps. Et c'est assez peu dit parce qu'il y a la brigade des nurses, vous savez, qui empêche le lien. Et du coup, il y a une réappropriation de ton corps qui a énormément changé, qui fait que, effectivement, ben, il faut réapprendre à être où sont ses limites, ses besoins, ses désirs, etc. Mais ça ne veut pas dire que ça disparaît. Il y avait une question par là.
Je pourrais juste avoir le nom de l'autrice dont vous aviez parlé tout à l'heure qui relatait ça, s'il vous plaît.
Je pourrais retrouver. Le nom m'échappe de ce témoignage-là qui a été écrit. Et puis, je retrouverai si tu m'attends enfin.
Il y a la mademoiselle non, là-bas.
On n'a plus le temps, malheureusement.
Ah bon. Ben, tu nous la poseras dehors.
Toute petite Allez. Dernière.
Ah, c'était un commentaire, alors fais-le, vite.
Du coup, je voulais juste rappeler qu'il y a aussi des femmes qui ont des pénis et des hommes qui ont des chattes, et aussi des personnes qui sont ni des hommes ni des femmes.
Ou les deux, oui.
Ou les deux, ouais. Et aussi, je voulais vous livrer, du coup, en plus, si c'est le mot de la fin, c'est chouette, une citation d'un atelier que j'ai fait il y a quelques années. On a fabriqué une maquette de chatte en mousse et on a eu tout un panel de citations qui étaient chouettes, dont celle-ci. Le clitoris, c'est pas un bouton de sonnette, c'est tout un pâté de maison.
Ah, bravo.
Bravo. C'est le climax de cette voilà. soirée.
Sur ce très joli mot de la fin, nous rendons l'antenne.
Merci d'être venu.
Merci.